9h dans le bureau de Parjupiter.
Les garçons ?
Non,
vous allez m'écouter. Comment reçoit aujourd'hui le président de l'Oulipo ?
Ah, l'Oulipo, ouais. Ça je connais, c'est Pérec, c'est Queneau, c'est écrire sous contrainte.
Ah là, nous, c'est ce que c'est, écrire sous contrainte à Parjupiter ?
Je dirais plutôt que nous, on écrit en s'amusant.
Ah, ouais, c'est ça. Mais tu veux pas un café d'abord ?
Oui,
non, elle n'a pas le temps. Donc, nous allons créer l'Oulipo, l'ouvroir de rigolade potentielle.
Ah, c'est
marrant.
C'est marrant.
Non, mais c'est pas une blague. Mais l'humour, comme la littérature, c'est du sérieux, pardon. Mais bon, donc, premier exercice.
Oui, madame. Blanquer.
Bon, allez, Alex, écrire une conférence de rédaction sans Guillaume Meurice.
Oh, bah, c'est pas sympa.
Non, mais c'est vrai que c'est pas sympa. T'as pas une autre contrainte parce
Oui, d'accord, Alex. Oui. Écris-nous une brève qui soit un minimum intéressante.
Ouf, oh, c'est dur là.
Bon, ouais. Allez, j'écris une conf de rédaction sans Guillaume alors.
Ah, ouais, je comprends, parce que là, c'est même plus une contrainte.
Ouais, Pérec, il a écrit un roman sans la lettre E, mais pas sans toutes les voyelles.
Ah, donc, écoute, si vous le prenez comme ça, on n'est pas prêt de révolutionner l'humour.
Ah, supposer qu'on me demande ici de révolutionner l'humour.
Oui, bah, c'est un peu ce que je te demande, Guillaume.
Non, mais c'est une contrainte oulipienne, Charline. Ça commence une phrase par à supposer que, voilà, je viens de me l'imposer.
Ah,
tu vois, l'humour, cette forme d'esprit railleuse qui attire l'attention avec détachement sur les aspects plaisants ou insolites de la réalité, tu veux.
Quoi,
mais enfin, Charline, c'est de la littérature définitionnelle.
Mais
que
oui.
Je fais là.
Bon, ben, ça suffit maintenant de faire les malins, oui.
À supposer qu'on ait envie de faire les malins.
Oh là là.
Alors, sommaire, devise, disque, 17h17, sujet, chronique, j'ai plus.
Oui, bah, merci de faire l'inventaire de l'émission, je connais. Merci.
J'adore ce jeu. Oh, on va bien s'amuser aujourd'hui.
À supposer que je vous demande de vous mettre au boulot.
T'as compris.
Bonjour la France Inter et bienvenue au sein de ce colloque sur la poilade d'actualité. Donc voici la devise, un seul être vous manque et il s'appelle Jean-Paul Belmondo. Au sommaire, les fake news ont un bel avenir car elles sont malheureusement très rentables. En tout cas sur Facebook, elles rapportent plus que les faits. Le taux d'engagement des internautes est 6 fois plus élevé que face à des actualités avérées.
Non, c'est pas vrai.
Oh si, c'est vrai.
Oh non, c'est pas vrai.
Oh si, c'est vrai.
Oh non, c'est pas vrai. La ferme.
Dès demain, il sera possible de voter avec des émojis. Voter avec un pouce levé ou un smiley pas content. Les Parisiens vont pouvoir voter le budget participatif de la ville de cette manière pour exprimer un vote nuancé. Ça s'appelle le vote au jugement majoritaire, une manière de ramener les citoyens vers les urnes, une parmi d'autres.
Messieurs, vous trois, acceptez-vous de prendre ces demoiselles pour épouses et de voter pour moi.
Depuis la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet peut tout faire. Le ménage, la cuisine et dernièrement, une dictée. Dimanche, 500 personnes ont participé depuis le musée de l'air à cette dictée en orbite. Une idée qui vient de loin. Donc.
Et moi, je l'entends parce que j'ai un truc d'audition qui fait que je peux entendre à 1 km.
D'accord.
Et à mes côtés aujourd'hui, Alex Vizorek.
Oui, il est là. Bonjour Charline Manounaker et laissez-moi vous présenter la toute belle équipe autour de la table à 17h20. Au début, on a essayé de lui mettre une petite contrainte, pas de mots grossiers dans ses chroniques. Et puis putain de bordel de cul, ça a été un échec. C'est Constance, bonjour.
Bonjour les amis.
De quoi va-t-on parler ?
Aujourd'hui, je vous promets une chronique sans dérapage.
Ah, ben voilà, 17h30, il est sa propre contrainte. Car tous les jours, il doit faire du Guillaume Meurice. Et pour cause, c'est Guillaume Meurice.
C'est vrai, c'est cohérent. Bonjour à toutes et à tous. Bah, c'est la folie, vous le savez, c'est la folie dans le pays. Arnaud Montebourg est candidat. La France est sauvée. Je suis allé fêter ça avec la population de gauche, ou presque.
Ben oui, il serait un petit peu plus à droite, ça serait pas plus mal.
Ah, merde, un macroniste, merde.
Et à 17h40, celle qui s'est elle-même imposée la contrainte de relier l'actualité à la littérature. Et même celle-là, elle ne la respecte jamais vraiment, puisque l'actualité, Charline, c'est qu'à 17h40, il y aura la chronique de Clara Dupont-Mono.
Bonjour Alex.
Bonjour, de quoi va-t-on parler ?
Du livre de notre invité.
Oui ! Voici celui qui va nous élever vers les hautes sphères de l'actualité. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Hervé Le Tellier.
Oh oui.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
par Jupiter.
C'est vrai, vous êtes un peu sûr de vous, Hervé Le Tellier.
Ouais, c'est
votre première question.
Ouais. D'habitude.
Bienvenue, et chers auditeurs, 1 million d'exemplaires vendus nous contemplent via les oreilles de l'anomalie, bien sûr, Hervé Le Tellier. Vous êtes le dernier prix Goncourt. Ancien journaliste scientifique aussi, vous avez fait des études de mathématiques et vous êtes président de l'Oulipo. Oulipo, groupe littéraire qui, donc on l'a compris, pour écrire, joue à se mettre des contraintes. Vous participez d'ailleurs à un rendez-vous culturel qui était initié pendant le semi-confinement, en tout cas quand les salles étaient fermées, le Rond-Point dans le Jardin, au Théâtre du Rond-Point. Et ce samedi, 11 septembre à 16h, le Rond-Point et ses jardins donnent carte blanche à l'Oulipo. Alors là, je comprends plus rien, Hervé Le Tellier. Carte blanche, c'est le contraire de la contrainte. L'Oulipo est-il perdu ? Que se passe-t-il ?
Non, carte blanche, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'Oulipiens sur scène, mais pas que des Oulipiens. Il y aura aussi des amis que j'aurai invités, comme Antoine Salaire, comme Olivier Broche. C'est la suite d'un certain nombre de rencontres. Demain, il y a François Rollin qui vient demain. Il y aura forcément Antoine Salaire également qui va revenir.
Une belle
il y aura
affiche,
François Morel. Enfin, il y a beaucoup
Mathieu
de gens Amalric, qui viennent.
Nora Hamzaoui.
Mathieu Amalric, etc. Et ça va durer, je pense, pendant presque 2 semaines. Voilà, le temps de remettre un petit peu en état les théâtres qui sont sortis d'une longue période de confinement.
Et l'Oulipo à l'oral, donc, ça pourrait donner
quoi ? Non, l'Oulipo est très longtemps, depuis très longtemps à l'oral, puis ça fait 25 ans qu'on a des soirées où on fait des lectures, qui sont appelées les jeudis de l'Oulipo, qui, de manière très oulipienne, cette année, vont devenir le mardi. Voilà. Donc les jeudis de l'Oulipo ont lieu le mardi.
On voit très bien, on fait pareil avec par Jupiter,
voilà.
On change tout ça. On est oulipien dans le fond.
Et donc, c'est des contraintes qui sont parfois très orales, hein, qui sont compréhensibles tout de suite, qui jouent non pas sur la lettre écrite, mais sur la lettre entendue, donc ça marche aussi.
Vous republiez aussi l'un de vos romans, Je m'attache très facilement, reparu aux éditions Mille et une nuits. Roman très très drôle, et d'ailleurs vos textes sont souvent drôles et humoristiques. Est-ce que l'humour c'est une contrainte ?
Non, c'est une disposition, enfin c'est une manière d'envisager le monde. Il paraît que l'humour c'est quand on rit quand même. Donc voilà, c'est une façon de voir la chose. Je suis assez dans ce dispositif-là. Je pense que le monde est relativement tragique, qu'il est fini, en tout cas notre vie l'est, et que donc dans l'intervalle de temps dans lequel on existe, il vaut mieux un peu en rire. Mmh.
Là, la contrainte de ce livre-là, c'est d'écrire un livre plus court qu'Amélie Nothomb.
Oui. Et c'est un livre que j'ai écrit en 10 jours, ce qui est mon record absolu.
Ah, oui.
C'est-à-dire, j'écrivais au fur et à mesure que les choses se déroulaient, une petite histoire qui était une tragédie personnelle, une sorte de Bérésina amoureuse. Voilà. Donc je l'ai écrit extrêmement rapidement. C'est une sorte de contrainte, un peu de procédure. On écrit tous les jours 5 000, 6 000 signes, et au bout d'un moment, on a presque 80 000 signes, et on fait un livre.
Mais pourtant, l'humour, n'y a-t-il pas une contrainte quand il y a une forme de grammaire qui fait que la phrase humoristique, elle fonctionne ou pas ? Il y a une question un peu d'efficacité. Je me permets de vous citer, parce que vous faites des punchlines. Ce qu'on appelle une punchline, il y a une contrainte. Votre héros était conduit la première nuit qu'il devait passer avec sa maîtresse, il passe tout seul à l'hôtel. Et je vous cite, « Mais 4 étoiles pour un homme seul, c'est beaucoup moins bien que 2 étoiles pour 2 ».
Vous êtes d'accord ?
Punchline de mathématicien.
Ouais, ouais. Oui, mais c'est juste.
Enfin, oui, c'est vrai.
Quand on a l'expérience
j'ai
deux...
calculé, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Et là, il n'y a pas de contrainte ?
Non, il n'y a pas de contrainte. C'est une réflexion de type aphoristique, ce qu'on appelle le vitz, c'est-à-dire des conneries qui sortent d'un seul coup et on se dit « Oh, on va la garder ».
Ça, on connaît ça.
Oui, vitz, en allemand, ça veut dire blague, juste.
Ah oui, ça veut juste dire blague, oui, c'est la blague. Le vitz, selon Freud, c'est le condamné à mort qu'on réveille le matin, on le secoue, on lui dit « C'est l'heure ». Il se lève, il se cogne contre le chambranle, il fait « la journée commence bien ». C'est ça le vitz.
Oui, c'est ça. Et donc, roman qui est paru dans un petit format, chers auditeurs, 4,50 €, il se glisse dans la poche. On vous le conseille, Je m'attache très facilement, et Clara Dupont-Monod va nous en parler tout à l'heure, évidemment. Cette réédition, est-ce qu'elle découle de votre prix Goncourt qui permet de remettre en lumière vos précédents ouvrages ?
On va le dire. Notamment. Je pense que le livre était sinon en fin de vie, du moins un peu invisible. C'est un livre qui était chez Mille et Une Nuits, donc qui ressort dans la petite collection à un tarif bien inférieur. Et je suis très content qu'il soit dans ce format-là, parce que je trouve que ça correspond tout à fait à l'idée même que j'avais du livre au départ. Il y a beaucoup de livres qui ressortent, parce qu'évidemment, comme beaucoup d'auteurs, on connaît en général... une sorte de disgrâce éditoriale qui fait qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, les livres disparaissent, sont pas forcément réédités, ils ne trouvent pas surtout de rééditeurs, d'éditeurs qui seront intéressés par leur faire publier. Là, j'ai la chance d'avoir 30 livres derrière moi, donc tous ressortent.
Ah oui, alors justement,
une résurrection généralisée de mon
tous,
travail.
Et pour nos auditeurs qui ont sans doute lu l'anomalie, pour entrer dans votre œuvre complète, parce que je sais que vous aimez aussi beaucoup vos précédents ouvrages, vous conseilleriez quel roman comme porte d'entrée ?
Moi, je pense que l'avant-dernier, c'est-à-dire Toutes les familles heureuses, qui est un récit familial et donc qui est très différent de mon travail de fiction. C'est pas inintéressant parce que c'est une sorte de réflexion sur comment est-ce qu'on vit dans une famille qui n'est pas dysfonctionnelle, mais qui n'est pas fonctionnelle du tout, en tout cas. Et comment est-ce qu'on entretient un rapport au monde, un rapport aux lettres, un rapport aux mots, qui vient aussi d'une solitude d'enfance. Et je pense que ça peut intéresser des lecteurs, même s'ils ont une vie personnelle très différente de la mienne. Donc c'est un récit qui a pour moi été intéressant à écrire parce que c'était le travail absolument opposé d'un travail d'écriture classique dans lequel on cherche en permanence la sincérité et le souvenir, alors que souvent on cherche la fiction et le mentir vrai. Moi je cherchais quelque chose qui soit de l'ordre de l'absolue réalité de ce que j'avais pu vivre et trouver les mots pour l'exprimer. Mmh. Et c'était quelque chose que j'avais pas fait avant, parce que souvent j'étais dans un travail de fiction, et c'est un travail qui m'a intéressé à faire et qui a débouché sur un livre que j'aime bien parce qu'en plus le titre est bancal, c'est-à-dire Toutes les familles heureuses, c'est le début d'Anna Karénine, Toutes les familles heureuses se ressemblent, chaque famille malheureuse l'est à sa façon, mais Toutes les familles heureuses, c'est un titre qui tient pas bien debout. Voilà.
Vous le vendez bien en tout cas.
Bah oui.
Non, c'est un titre bancal.
Un titre de guingois.
Et j'aime bien ça parce que ça correspond un peu à mon enfance. Donc c'était finalement c'était une bonne idée. Au début, je voulais Toutes les familles se ressemblent et puis Toutes les familles se ressemblent. Et j'ai coupé et je trouve que comme ça, il est
une porte d'entrée possible dans votre œuvre. Hervé Letellier qui est avec nous. Je m'attache très facilement et donc reparu aux éditions Mille et une nuits, cette petite collection. Et puis vous participez au rond-point dans le jardin. Ce sera samedi 11 septembre à 16h à Paris avec Loulipo. The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill. Shall we don't like it? Rock the Casbah, rock the Casbah. Shall we don't like it? Rock the Casbah. Rush, Rock the Casbah sur France Inter et Hervé Le Tellier. Mais enfin, qu'est-ce vous avez mangé un sandwich avec Joe Strummer?
Oui,
mais enfin, racontez-nous ça, enfin.
Oui, en 76. Ouais. Ça ne rajeunit pas vraiment. En tout cas, moi, ça ne rajeunit pas.
Vous assistiez au concert?
J'étais au service d'ordre du premier concert des Clash en France.
C'est-à-dire,
comme c'était un service d'ordre d'une organisation politique qui s'appelait à l'époque la Ligue communiste révolutionnaire, et qu'on avait invité les Clash à venir, qui étaient partis d'un groupe qui s'appelait Rock Against Racism, qui tournait dans toute l'Angleterre. Ils ont fait un concert en France et j'étais à ce concert là pour assurer une sorte de sécurité du groupe. Voilà. Et après, j'ai mangé effectivement un sandwich avec Joe Strummer. Et on m'a demandé à quoi était le sandwich et je ne m'en souviens plus. J'ai oublié.
Et voilà, un auteur punk est avec nous.
Garde du corps.
Hervé Le Tellier. Et pour l'entourer, Alex.
Eh bien, j'entends rire Guillaume Meurice. Je vois se préparer Constance et Clara Dupont-Nono nous parlera du livre de l'invité.
À présent, la formation.
Pourquoi vous et moi, on n'est pas dealeuse? Pourquoi est-ce qu'on est là?
Le journal de presque 17h17.
Pourquoi vous et moi, on n'est pas dealeuse?
L'argent.
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 Je sais pas, moi, je dirais l'argent.
Et on commence par les titres.
Mais suite à la disparition de Jean-Paul Belmondo, un hommage national lui sera rendu jeudi aux Invalides.
Oui, par contre, pour l'héritage, on ne sait toujours pas si Laetitia Belmondo laissera David et Laura Belmondo toucher leur part.
La première dame américaine, Jill Biden, reprend son travail d'enseignante. C'est une première aux États-Unis.
Grosse incompréhension du côté de Brigitte Macron, qui se demande bien quel est l'intérêt maintenant d'y aller alors qu'elle est déjà première dame.
Et oui, et des brèves.
Et bien sûr, Charline, je suis l'as des as de la brève.
Ouais, c'est vrai que c'est de la cascade. Allez, on commence par la disparition de Jean-Paul Belmondo qui a ému toute la France.
Oui, Charline, bon, moi, vous savez, j'ai le deuil plutôt pudique, alors je ne vous pas m'éterniser, je vais pas...
Non, mais enfin, je veux dire, faites-nous quand même une petite séquence émotion. Voilà.
Moi, je ne sais pas faire ça, je vais déléguer ça à quelqu'un qui maîtrise mieux le sujet. Hier soir, sur C8... Cyril Hanouna.
On est un petit peu triste, etc. Mais Jean-Paul, il avait toujours le sourire.
Ouais. Ouais,
on était tout le temps. Moi, dès qu'il voyait ma gueule, il était rigolé. Hanouna, bah alors. Tout patient. Et j'ai un regret. Je vous le dis, c'est que cet été,
je devais aller le voir.
Allez. Non, mais c'est vrai que.
Allez, si. Allez, si, mal.
Bah c'est vrai qu'on l'a vu ensemble à Cannes il y a 2 ans.
Heureusement que Castaldi était là parce que c'est fou comme ça rend émotif la coca.
Non.
La cocasserie. Il fait beaucoup de cocasserie à la télévision et du coup ça le rentre.
Alors autre hommage dans un autre style.
Oui.
Sandrine Rousseau, la candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, c'est quant à elle fendue d'un tweet.
Que je vous lis in extenso. Merci Jean-Pierre Belmondo d'avoir porté haut le cinéma français.
La boulette.
En tout cas, on a hâte de savoir si ça aura des conséquences sur cette primaire contre Patrick Jadot et Tariq Piolle.
Politique encore, l'homme jugé pour avoir enfariné Jean-Luc Mélenchon lors d'une manifestation contre l'extrême droite en juin dernier a été reconnu coupable mais dispensé de peine.
Oui, rare fait divers où le coupable finit comme la victime, quasiment blanchi.
Et à l'international maintenant, oui. Au Vietnam, un homme a été condamné à 5 ans de prison pour avoir propagé le Covid-19.
5 ans de prison pour être partiellement responsable de la propagande du virus, autant vous dire...
Pardon, Allez, il y a du courrier, allez, la propagande Rousseau, du virus, ouais. Allez, courrier.
Sauf que derrière, j'avais bon avec ses freudiens. Parce qu'au Vietnam, Agnès Buzyn, elle aurait pris perpète.
Et santé, toujours, ouais. L'Institut Pasteur est à la recherche de centaines de volontaires pour tester un suppositoire contre le Covid.
Eh ben, sans être vulgaire, les antivax vont l'avoir dans le cul.
Voilà, passons à un gros événement, vous m'avez dit Alex, mais oui. Vous avez dit gros événement, nanana, mais vous avez refusé de préciser.
Oui, je voulais pas vous perturber, je voulais pas qu'on discute de l'intérêt ou non d'en parler, parce que je pense que vous aviez pas ce feeling de savoir à quel point c'était important. Ce championnat d'Europe de la Coupe Mulet.
Oh non, pardon.
Oui, bah si, ça existe, je suis désolé. Et l'an dernier, c'était chez nous, et on avait une petite contrariété, écoutez l'organisateur.
C'est le retour, l'année dernière c'était en Belgique, deuxième année du coup, ça se passe en France. Il y a des Belges qui sont venus de Belgique, pour vraiment concourir, parce que en Belgique l'année dernière c'est un Français qui a gagné.
Battu sur son propre terrain pour la Coupe Pelé, mais grâce au grand, à l'immense, au génie de la tapisserie nucale, Nicolas Van der Kellen.
Ah bah ça, on est content de le connaître.
Oui. On l'a gagné, on l'a gagné cette fois. Écoutez-le, l'émotion après sa victoire.
Concours magnifique, magnifique. Toute l'ambiance, les gens qui ont participé à tout ça, magnifique.
Ça fait combien de temps que tu portes
le mulet? 20 ans. 20 ans que je porte la même coupe. Je ne change pas.
Je ne change pas, et il a confirmé à la presse belge, c'est toujours maman qui me coupe les cheveux.
Voilà. Très bien.
Normalement, il y a une petite chronique qui se prépare avec lui. Je suis en contact avec lui pour une petite chronique, pour en savoir plus. J'ai vu que Charline, ça l'a passionné.
Ouais, ouais, super, formidable. Hervé Le Tellier est avec nous. On va aborder le premier sujet. Les fake news sont attractives et donc potentiellement très lucratives. D'après une étude menée par des chercheurs américains et publiée par le Washington Post, les fausses nouvelles sur Facebook rapportent plus que les faits. Elles suscitent plus d'engagement de la part des internautes, c'est-à-dire plus de likes, de partages, de commentaires, ce qui attire les annonceurs.
Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
Entrefouille, merde. Je vais t'enfiler, moi, du biscuit sur Georges pour ta feuille de chou. Ça va fuser les potins, les ragots. C'est ma profession, moi, de témoigner. Mes témoignages, c'est pas de la taupe.
Mais je suis un peu surpris. Quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que vous aviez bien connu Georges et que vous aviez de vraies informations.
Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. La vérité, ça n'a jamais intéressé personne.
La classe américaine, bien sûr, le film situationniste de Michel Hazanavicius et Dominique Meseret. Les pages qui partagent des fake news sont celles qui reçoivent donc le plus de likes, de partages, de commentaires. Vous avez été journaliste, Hervé Le Tellier. Si vous l'étiez resté, vous seriez un petit peu le David des faits contre le Goliath du mensonge. C'est que c'est un sujet qui vous tient à cœur, celui-là.
Oui, ça me tient à cœur parce que je pense qu'on va aller de plus en plus vers des fake news qui n'auront pas l'air de fake news. Qu'il va arriver ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire des véritables montages dont on ne pourra pas discerner les trucages internes.
Vidéos, notamment.
Des vidéos. On peut voir Obama qui danse sur une chorégraphie de Rihanna, donc il n'y a pas de problème pour lui faire dire n'importe quoi. Et puis, il y a quelque chose qui m'ennuie, c'est ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle le principe de Brandolini, ça s'appelle en anglais le asymmetric bullshit principle, le principe d'asymétrie de la connerie. C'est-à-dire qu'il faut 10 fois plus d'énergie pour montrer que quelqu'un a dit une connerie que pour simplement avoir raison. Donc il faut surtout éviter d'inverser la charge de la preuve. C'est à quelqu'un qui dit une bêtise de la prouver. C'est pas à soi-même d'éviter de prouver le contraire d'une sottise. Mmh. Et c'est un vrai problème parce que si on voit sur la propagande contre le vaccin, et toute une série de choses de cette nature, il y a une vraie adhésion populaire, on peut dire, à des choses qui sont fausses. Quoi.
Donc il faut demander à celui qui énonce la fake news de prouver.
De prouver. Parce que si on commence à...
Ils sont assez sûrs quand même.
Compliqué.
Ils ont l'impression d'être assez sûrs, ouais, donc voilà. C'est difficile.
Est-ce que c'est récent? Parce que depuis l'invention des religions... On n'est pas loin de ça.
C'est exactement le principe de la théière de Russell. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce que disait Bertrand Russell, qui disait à tous ceux qui lui demandaient de prouver que Dieu n'existait pas, il répondait, oui d'accord, alors je te signale qu'entre Mars et la Terre, il y a une petite théière victorienne qui gravite, prouve-moi qu'elle n'existe pas.
Ah oui. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas les publicitaires, les marques, les annonceurs qui ont un peu la solution en main, parce que eux, ils peuvent couper les robinets de l'argent et pas apparaître auprès de...
Oui, je pense qu'il y a une possibilité pour des annonceurs de faire un peu le ménage. Mm-hmm. Est-ce que ça va se faire? C'est pas une évidence, parce que si effectivement la propagation des fausses nouvelles rapporte, pourquoi pas la sponsoriser quasiment.
Mm-hmm. Alors, c'est une équipe de chercheurs américains qui a fait cette étude qui montre que les fake news sont plus rentables en fait que les faits. Et puis Facebook affirme que les contenus potentiellement trompeurs sont moins mis en avant, mais ils ont coupé l'accès des données à un groupe de chercheurs qui travaillait sur la transparence. Voilà, il y a pas mal d'articles là-dessus qui sont traduits du Washington Post notamment. Hervé Le Tellier à nos côtés. Voici Constance.
Le 5 décembre, c'était la journée mondiale de la barbe.
Et dans le souci de coller entièrement au sujet comme un slip nous collerait au bonbon parce qu'il ferait bien trop chaud, eh bien j'ai choisi d'adopter ce ton barbant que je n'hésiterai pas à jumeler au sujet du rangement. Sujet universellement rasoir. Les termes barbant et rasoir ont été insérés sciemment dans cette introduction sur ce thème de la barbe, dans le but évidemment de faire déborder de joie les amateurs de métaphores filées, de macro. La difficulté lorsque l'on s'attaque à la réorganisation d'un placard à chaussures, c'est évidemment de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. En effet, il arrive malheureusement trop souvent de stocker un escarpin derrière une bottine et de l'oublier. J'ai un de ces bourdons. Vous pourriez m'appeler Didier. Il est à noter que la sandalette souffre. Il est à noter que la sandalette souffre très souvent du voisinage inapproprié d'une basket dans sa boîte de stockage et peut finir aplatie, voire carrément détériorée. Prenons quelques secondes pour nous recueillir et rendre hommage à cette ongle cassée que nous gardons dans un recoin et que jamais nous ne jetterons. Voilà. Depuis le début de cette chronique, j'ai vieilli de 10 ans, tant je m'englue dans le fion de l'ennui. Négliger le nettoyage du susdit placard peut se révéler dangereux et exposer le propriétaire du soulier inconséquent au tristement célèbre et inconfortable incident du caillou dans la chaussure. Je pourrais tricoter un pull et adopter un caniche aveugle, tant je suis devenue vieille. Astuce éco pour les malins, gardez vos barquettes de glace en plastique, car une fois le délicieux sorbet dégusté, vous pourrez offrir une deuxième vie à vos maisons à crème glacée en les transformant en boîtes de rangement pour vos tubes de cirage. Constance, démission ! Vous évitez les vrais sujets pour cette journée mondiale par lâcheté ! C'est honteux ! C'est nos impôts ! Il faut la brûler ! C'est une pute ! Et enfin, taisez-vous, dis donc, les petites personnes qui protestent dans ma tête, calmez-vous, les opposants chimériques mentaux. Oui, cette journée mondiale de la barbe aurait pu être orientée poil au menton, façon Karl Marx ou Tata Gisèle. Oui, mais je sais très bien ce que vous essayez de me faire faire. Vous voulez m'obliger à parler pilosité du visage pour me faire déraper. Oui. Vous fantasmez sur le fait que je fasse une sortie velue. Vous voulez que je dise que la barbe est un symbole de virilité boostée à la testostérone qui ressemble davantage à une grosse chatte poilue postée au milieu du visage et qui sert à camoufler une sale gueule de con et à stocker des restes de maillot et de l'herpès croûteux. Vous voulez que je dise que c'est un paillasson dégueulasse de figure, en plus d'être un nid à morpion moyenâgeux. Vous fantasmez sur le fait que je dise que la moustache ça rend dictateur ou rockstar. Vous voulez que je dise qu'Hitler en pantalon moulant il ressemblait vachement à Freddie Mercury et que Staline et Brassens en fait c'était les mêmes personnes. Ah ça y est, j'ai dérapé à cause de vous, c'est à cause de vous tout ça. J'étais tranquillement en train de ranger mon placard à chaussures et vous m'avez provoqué. Voilà, tout ça c'est votre faute. Vous avez fait de moi un monstre, un moustache raciasse. Oh, ce jeu de mots, c'est à cause de vous. Et tenez, je vais terminer cette chronique sur une blague et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Que reste-t-il quant au Rasputin?
En effet. Constance, Ami Rochelet, allez voir Constance dans son spectacle Peau pourrie. Constance joue à La Rochelle le samedi 18 septembre, c'est bientôt, à l'espace Encan. Merci Constance.
Merci à vous.
Place à Gaëtan Roussel. Est-ce que tu sais? Oui, pour la barbe, on est au courant.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près? Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour? Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à 1 millimètre près? Je sais pas si tu sais, 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 est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des fleurs? Te dire à la rivière près, est-ce que tu sais que nous les doigts poussent des armes, des tonnes, des tonnes. Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu essaies. Je sais pas si tu sais. 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 Je sais pas si tu sais.
Gaëtan Roussel sur France Inter dans Par Jupiter, dont l'invité est Hervé Le Tellier. Hervé Le Tellier, l'Oulipo, c'est un groupe aussi de scientifiques de la langue, dans le fond.
Oui, enfin c'est un groupe qui s'intéresse énormément à la structure, au fonctionnement de la langue, ce qui permet en fait de la déstructurer et de la manipuler et de la considérer comme autant comme un ennemi que comme une amie.
C'est même poétique.
C'est bien dit. Hein.
C'est extrêmement bien dit.
Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose.
Ça, j'y avais jamais pensé.
La phrase, c'est votre poupée gonflable.
Voilà. Et comme. Voilà.
Et c'est la fin de l'émission.
C'est Guillaume Meurice sur cette bonne vanne. Guillaume.
Moi, je vais revenir évidemment sur le séisme politique de ces dernières heures. Hein, la candidature d'Arnaud Montebourg à l'élection présidentielle. Désolé, ce sera peut-être une chronique un petit peu sérieuse, tant le bouleversement est profond dans la société française. On a vu des scènes d'euphorie collective du côté de Clamecy, dans la Nièvre. Le Chopi a même dû fermer à 18h à cause d'une rupture de stock de cubis de rosé. À l'international, l'annonce a fait grand bruit, hein, puisque Vladimir Poutine a déclaré qu'il avait hâte de rencontrer le Vladimir Ilitch de Frangy-en-Bresse. À Kaboul, les talibans ont révélé qu'ils avaient pris le pouvoir dans l'unique espoir de rencontrer Arnaud Montebourg. Ça va loin quand même. Son projet, vous l'avez entendu, s'appelle la remontada. Le slogan est relayé sur tous les réseaux sociaux, ainsi que Montebourg, la qui France. Eh oui, Jacques Séguéla a fait une descente d'organes, mais ses jours ne sont pas en danger. En tout cas, dans les rues de Paris, c'est la folie comme partout ailleurs. J'ai choisi évidemment l'arrondissement le plus radicalisé, le 12e arrondissement qui vote socialiste. Hein, c'est d'ailleurs une sorte de réserve naturelle là-bas de socialistes, c'est une espèce protégée. Allons-y pour fêter la candidature de Montebourg.
Arnaud Montebourg se présente. C'est la folie parmi les.
Il n'y a rien à foutre parce que c'est la gauche, moi, et le bulletin, je les jette. Mais disons que c'est le plus sympa.
C'est peut-être pas si mal. Alors.
Non, mais la gauche, c'est de la merde.
Pas de bol. Bon, je suis tombé sur le seul résistant du 12e arrondissement, seul génétine de la place Doménil. Bon, là, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que sinon, l'euphorie était vraiment présente, mais vraiment à chaque coin de rue.
Franchement, à gauche, je suis un peu perdu. C'est compliqué de... Je vois pas pour l'instant une personne qui se détache à gauche.
On sent que vous avez un enthousiasme, mais mesuré.
Très mesuré.
Oui, la pudeur, hein, bien sûr, parce que le 12e, c'est aussi un quartier de gens pudiques. En plus, j'étais dans le nord du 12e. Et on sait que les gens du Nord sont des gens quand même très très pudiques. Regardez les Belges, c'est vrai qu'on se moque de vous parfois parce que voilà, vous avez le seum, etc. On l'a dit, mais c'est parce que vous n'aimez pas gagner, parce que vous êtes pudiques. Vous n'aimez pas triompher.
Voilà.
Allez, retournons dans le 12e pour les scènes de liesse.
On sent un enthousiasme débordant chez vous.
Ouais. Tout à fait. Le sens des formules, la remontada, c'est quand même assez exceptionnel.
Vous avez trouvé ça
exceptionnel ? On y croit à fond.
Bon, et qu'est-ce que vous attendez d'un candidat comme Arnaud Montebourg ?
Rien.
Se foutait de ma gueule. Donc, j'avais pas vu arriver, j'avais pas compris la blague. J'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon une Clara Dupont monodite. Ça arrive. Mais parlons du fond, parlons de politique, proposition, programme.
Belle gueule.
Ouais, pas mal.
Il est beau gosse ?
Belle gueule.
Ouais,
alors.
Mais bon, ça fait un peu mou. Non, il est trop mou pour moi.
Il est trop mou au niveau du visage ?
Ouais, c'est trop mou.
Même physiquement, non, il vous plaît plus ?
Ah ben, il m'a jamais plu.
Oui, bon, bon, d'accord. C'est vrai que sur le créneau des physiques, école de commerce qui font transpirer la ménagère, il s'est fait piquer la place par Vizorek. Donc, voilà. Mais je parlais programme, hein, là. On a dérivé. Je parlais vraiment politique et surtout la trace phénoménale qu'il a laissée quand il était ministre de l'économie. Et le ministère de l'économie, il est dans le 12e. Donc, vraiment, la vie est bien faite.
Et pour la France, il a fait de belles choses, je reconnais.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait ?
Ben, le drapeau tricolore, le drapeau. Le tricolore, bleu, blanc, rouge.
Oui, voilà. Alors, c'est pas lui qui l'a créé non plus. Mais c'est vrai qu'il a soutenu le Made in France.
Oui,
voilà, le Made in France, il a posé en une du Parisien avec tout l'attirail du français, la marinière, le mixeur Moulinex, le complexe de supériorité. Tout y était. Il était français. Mais là, s'il est président, il va devoir se confronter aux vrais problèmes de la France et donc du 12e arrondissement.
J'ai eu un pigeon crevé pendant un mois devant mes fenêtres et personne n'y a touché.
Vous aviez un pigeon crevé devant chez vous ?
Oui, devant chez moi, pendant une semaine. Alors je l'ai dit au balayeur, il m'a dit on va vous envoyer quelqu'un, j'ai jamais vu quelqu'un parce que pendant un mois il a été là.
Peut-être qu'Arnaud Montebourg il va remédier à ça.
Bon, je sais, bon, j'ai pas lu le programme encore, mais à mon avis, c'est prévu. Les pigeons, bon, c'est vrai qu'il les préfère vivants, ça lui fera des électeurs. Allez, terminons avec une vendeuse de miel. Voilà, passons vraiment. Miel, et voilà. Elle pouvait que adhérer à la candidature de Montebourg.
Quand il y a la campagne et qu'il y a des candidats, je m'assure de savoir s'ils mangent du miel. Alors déjà, ils mangent du miel, oui. Donc il peut être assuré d'avoir ma voix.
Ah, c'est votre critère.
Parce que le miel ouvre l'esprit.
Ah, c'est vrai,
c'est
ça.
C'est l'aliment du cerveau.
Ah, voilà. Alors attendez, il le produisait, mais est-ce qu'il le mangeait ? Ça, on ne sait pas. En revanche, on sait que ce qu'il va se manger, c'est une belle branlada.
Merci Guillaume Meurice. Hervé Le Tellier, poursuivons justement. À partir de demain, les Parisiens vont pouvoir voter avec des émoticônes. On appelle ça aussi des émojis. Le budget participatif de la ville pour décider d'un parc pour les chiens ou d'un atelier de réparation de vélos. Alors si vous êtes pour, vous mettez un pouce en l'air. Si vous trouvez ça très bien, un cœur. Et si vous êtes hyper enthousiaste, une aubergine. Donc ça, je l'ai un peu inventé. Alors attendez. Hein. J'ai lancé un brin dans mon... J'ai lancé le son. Mais j'avais pas fini le... Plutôt que de dire oui ou non, pardonnez-moi en régie, plutôt que de dire oui ou non, c'est un moyen d'exprimer de la nuance dans le vote et ça s'appelle le vote au jugement majoritaire. On peut y aller.
75% des gens sont d'accord avec lui.
Et alors, quel rapport ?
C'est la majorité. Non, c'est la majorité, mon vieux, puis c'est tout, et puis voilà, hein, c'est la majorité. Voilà.
Laquelle, d'abord ? Laquelle ? Celle qui pensait que la Terre était plate ? Celle qui veut rétablir la peine de mort ? Celle qui se fout une plume dans le cul parce que c'est la mode ? Laquelle, exactement ?
Et oui, c'est Jean-Pierre Bacri dans Cuisine et dépendance, un film de Philippe Muil coécrit avec Bacri et Agnès Jaoui. Donc c'est un système qui a été mis au point par des chercheurs du CNRS. C'est un article paru dans Le Monde aujourd'hui. C'est pas forcément avec des émoticônes. Hein. Je suis plutôt pour, pas du tout, plutôt contre, etc. L'idée est de mettre de la nuance dans le vote et le vainqueur est celui qui est le mieux évalué par une majorité. Ma première question. Écrire par texto, par exemple, ou par ordinateur des émojis, c'est une chose. Là, je parle à Loulipia. Mais voter.
Je sais pas. Moi, je trouve que c'est intéressant l'idée de pouvoir voter contre, déjà, dès le premier tour, oui, au lieu d'attendre le deuxième. Donc, j'aime bien l'idée qu'on puisse éliminer dès le premier tour. Je trouve pas ça idiot. Après, il faudrait voir
nuancer,
combien d'émoticônes on a droit.
4, je pense. Ouais.
4, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais pour pouvoir mettre aussi des émoticônes qui ne veulent rien dire, pour voter blanc par exemple, avec un chien ou avec une.
Ouais. Vous êtes pour le vote blanc avec l'atelier?
Dans certains cas, oui.
Ouais. Enfin, je dis ouais, hein, parce que en Belgique, c'est.
Mais je suis pour qu'il soit comptabilisé, par contre.
Oui,
je pense
voilà.
Voilà. Ah, s'il est comptabilisé, oui. Sinon, ça n'a plus de sens.
Ça pourrait être une contrainte amusante de vous obliger à mettre 2 émoticônes par page, par exemple.
Mais oui, mais je connais une très belle poésie qui va sortir bientôt. D'un homme qui s'appelle Victor Pouchet, qui termine par émoji-cœur, émoji-chien. J'espère tout de même que tu vas bien. C'est une très jolie
Certains
poésie.
Certains en ont fait un c'est titre un... de livre, hein, je rappelle.
Oui,
mais est-ce que vous pensez, en tant qu'Oulipien aussi, que les émojis ou les émoticônes peuvent provoquer des quiproquos ?
Oui, je pense même que c'est un des problèmes de la difficulté qu'on a à rédiger des textos. Aujourd'hui, on n'a plus de... Il faut mettre des petits signes qui indiquent qu'il faut rire ou des petits signes qui indiquent qu'on est triste, ce qui prouve qu'il y a un appauvrissement. Moi, je suis pas très favorable, en fait, à l'usage des émoticônes dans les mails ou dans les textos, parce que je trouve que c'est vraiment une manière de montrer qu'on sait pas très bien dire ce qu'on veut dire. J'aime bien que toutes les choses soient dites par les mots.
Et est-ce que justement ça enlève, là il y a un paradoxe parce que si je vous suis, ça enlève certaines nuances, la nuance que peuvent apporter les mots. Or le vote ici propose d'apporter des nuances, donc l'émoticône permet à la fois d'en apporter dans certains cas et d'en retirer dans d'autres. Quand il remplace les mots, il enlèverait de la nuance et quand il fonctionne avec le vote, il en apporterait.
Je comprends, mais dans un bulletin de vote, en général, on n'écrit pas des longues phrases. On met un truc dans l'enveloppe ou pas. Donc l'émoticône est une sorte d'amélioration par rapport à simplement un bulletin. Alors que dans un SMS, l'émoticône apporte simplement une explication à quelque chose qui a été mal dite. Mmh. Si c'est bien écrit, en théorie, on voit l'humour. Et si on se comprend, on sait de quoi on parle.
Il arrive que ça provoque des quiproquos. Il y a une entreprise londonienne, il y a quelques années, qui cherchait à recruter un traducteur d'émojis. vous seriez bon traducteur? Vous pouvez traduire pêche plus aubergine, par exemple?
Ça veut dire voter pour moi.
En quelle langue?
Oui, en français, pour qu'on comprenne. Mais si vous préférez en anglais ou en turc.
C'est à peu près ce que Gainsbourg avait dit à Whitney Houston à l'époque.
Voilà, c'était ça. C'est une bonne traduction, en effet. Mais ah. Oui, donc la nuance pour le vote, l'idée est intéressante.
Je trouve ça plutôt intéressant. Voilà,
en tout cas, plusieurs think tanks ou groupes.
Il faut savoir comment on pondère. C'est-à-dire, ça va être compliqué de voir le résultat d'un vote. Parce que s'il y a trois pour, deux moyens...
Non, il suffit juste de faire une moyenne, en fait.
Ouais, c'est ça.
Bah, vous êtes mathématicien, vous allez créer une équation.
C'est comme voter de 1 à 4, et puis on fait la somme, quoi.
Voilà,
en fait. Mais c'est plus
ça.
Rigolo avec les émoticônes.
Voilà. Hervé Le Tellier, revenons à votre ouvrage avec Clara Dupont-Monod.
Oui, parce que c'est vous, notre actualité, Hervé Le Tellier, exquise réédition de 2007. Je crois, intitulé donc « Je m'attache très facilement ». Alors, à première vue, ce texte, c'est l'histoire d'un homme qui part en Écosse pour faire une surprise à la femme qu'il aime. Et dans la phrase que je viens de vous énoncer, c'est le dernier segment qui pose problème, puisque j'ai dit « la femme qu'il aime » et non pas « la femme qui l'aime ». Et oui, la femme en question n'a aucune envie de le voir et elle ne le dit pas, ce qui est pire. Sourire de circonstance, conversation à trous, manque de désir criant. Bref, je vous cite, il devine que, quels que soient les efforts qu'il déploiera, il ne l'enchantera pas. Précision de taille, elle a 30 ans, il en a 50, une calvitie naissante, pas assez de muscles. Et quand il se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il recule. Donc vous avez écrit l'histoire d'un homme qui vieillit et qui aime une femme plus jeune et qui se sent denrée périssable, obsolescence programmée. Alors avant vous, un auteur de génie, je crois que vous l'aimez bien, a écrit ce terrible sentiment masculin du déclin. C'est Romain Gary avec l'ouvrage « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Déjà, titre de génie, vous êtes d'accord. Et, oh mais comme c'est étrange, le titre de votre livre « Je m'attache très facilement » est une phrase de Romain Gary. Que par ailleurs vous mettez en exergue. J'en ai conclu que vous l'aimiez bien.
Oui.
Oui, vous avez vu, j'ai l'esprit.
C'est plus émoji plutôt oui.
Alors, à ceci près que Gary, il a l'humour assez cruel, quand vous, Hervé Le Tellier, vous avez l'humour tendre. L'intrigue de Gary, elle est plus douloureuse. Par exemple, il creuse les écarts. Jacques, le héros de Au-delà de cette limite, il a 60 ans et sa copine, elle en a 20. Donc c'est un écart plus grand que chez vous. Jacques, il est plus fringant que votre héros, ce qui rend la chose plus cruelle. Sa copine est folle de lui autant que lui d'elle. Donc ça épaissit le tragique, parce qu'il y a une vraie réciprocité. Et surtout, Gary, il met l'accent sur la performance sexuelle, là où vous, vous mettez l'accent sur l'amour. Romain Gary écrit « Si seulement j'étais arrivé à décharger, ça décongestionne. » Vous écrivez « Pourquoi son cœur ne vieillit-il pas comme sa peau, comme ses yeux ? Jacques craint de ne plus combler sa chérie et votre personnage craint de ne plus lui plaire, ce qui est très différent. Mais dans les deux cas, ce sont les ravages du temps, ce lent passage du viril au vieux qui fragilise ces garçons. Juste une scène, celle que je préfère. À un moment, votre personnage entre dans une chambre d'hôtel de luxe. Il est tout seul, parce qu'en fait, il devait être avec sa copine. Le lit est king size. Et pour occuper l'espace, comme s'il y avait deux personnes, il dort mais en travers du lit, en biais. Il passe toute la nuit comme ça. Cela dit, il reste digne, mais le Jacques de Romain Gary aussi. À un moment, votre héros il se fait un peu chauffer par la réceptionniste de l'hôtel. Et du coup, il se dit bon, « je pourrais le raconter à ma copine pour attiser sa jalousie ». Stratégie assez, oui, d'accord, oui. Mais parfois efficace, reconnaissons-le. Mais il ne le fait pas. Ou alors à un moment, il se dit « bon, là, j'ai rien à voir. J'aurais 30 ans de moins, elle m'aimerait pas. C'est comme ça, en fait. » Et il se rend vite compte que ça tient pas tellement la route. En fait, il a l'élégance de ne pas tomber dans ses propres pièges. Vous nous offrez donc à lire un homme tout nu, avec son sursis et avec ses peurs. Je vous cite, peur qu'elle l'abandonne à son sort de bientôt vieil homme, qu'elle lui préfère une vie avec un lendemain. Comment lui reprocher? Et comme en écho, Romain Gary fait dire à Jacques, arrive toujours ce moment pénible entre tous où elle repousse doucement votre tête et il y a entre vous un silence de ballon crevé. Je vous redonne les références. Je m'attache très facilement d'Hervé Le Tellier est paru chez Mille et Une Nuits et
Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable de Romain Gary est en folio.
Merci Clara Dupont-Monod. Et on peut dire aux auditeurs que si vous avez 5 balles en poche, il coûte 4,50€ votre livre.
Hervé il reste 50 centimes.
Eh bien sûr.
Mais nous, on l'a eu gratuitement.
Par service de presse.
Voilà.
Il faut expliquer aux auditeurs. Voilà. Nous sommes des vénards. On a peut-être d'ailleurs potentiellement deux Goncourt dans ce studio. Clara, vous faites partie de la première liste du prix. Oui, vous êtes parmi les 16. Hervé Le Tellier a connu ça, ce suspense.
Mais oui.
Il n'en restera qu'un. Aucune. Et vous, c'est pour s'adapter chez Stock, je rappelle. Et vous gagnerez peut-être donc un repas chaud chez Drouin, ce qui est toujours bon.
Clara Dupont-Monod ou la François Bayrou.
Hervé Le Tellier, poursuivons avec ce dernier sujet. Après Thomas Pesquet tweet dans l'espace, ou Thomas Pesquet fait une pizza dans l'espace, Thomas Pesquet fait une dictée dans l'espace. Il doit se faire chier, Thomas Pesquet. Dimanche, plusieurs centaines de personnes se sont réunies au musée de l'air pour écrire sous la dictée de l'astronaute de l'importance de celui qui dicte tout de même, évidemment.
Bon alors, je sous-signais. Sous-signais et féminin, pluriel. Ça, si t'irais à l'école, tu le saurais, par exemple.
Je sous-signais commissaire Laurence Cochet. Déclare sur l'honneur avoir interrogé, c'est joli, hein, monsieur Aziz Alami, à la date du... C'était quand ça? C'était le...
Le 12.
Le 12, je le savais. À 12h12. Comme ça, ça rime. Etc, etc. Hein, on va y mettre les formes. Hein.
C'est Florence Foresti dans Dickeneck, le film d'Olivier Van Hofstadt. Donc ici, c'est un sujet purement science et linguistique. Donc c'est vraiment fait pour vous,
c'est pour moi.
Hervé Le Tellier. Vous y décelez quoi dans cet événement, le fait que Thomas Pesquet, dans l'espace, fasse une dictée, et puis les gens sur Terre font cet exercice?
Il y a un retour de la dictée, non, il me semble. Que,
ah,
comme
possible.
Exercice,
ouais.
Il y a d'abord celle de France Culture qui reçoit beaucoup d'adhésions.
Elle sera diffusée d'ailleurs, cette dictée.
Ouais, ouais. Et je pense qu'il y a, ça a toujours fasciné l'orthographe. D'abord parce que c'est compliqué, ensuite que c'est pas logique. Donc il y a une sorte de fascination pour ça. Et puis il y a aussi le côté transmission, c'est-à-dire j'ai déjà eu beaucoup de mal à apprendre l'orthographe, je crois que mon fils aussi ou ma fille aussi le connaissent. Voilà, je me suis embêté avec, et il faut le transmettre. Donc ça rend très difficile en fait même la réforme de l'orthographe. Il y a des choses pour lesquelles ce serait peut-être nécessaire. Les Italiens sont avec quelque chose de très très phonétique, alors que nous même le mot phonétique s'écrit pas de manière phonétique. Il y a des logiques qui font qu'il y a des résistances.
Et vous seriez plutôt un tenant de la nouvelle orthographe, de simplifier un peu les choses?
Pour certaines choses, oui. Je serais pas opposé, par exemple, à l'idée qu'on modifie les accords dans le participe passé.
Ah oui. Ah, voilà. Bien, d'autant qu'ils viennent d'une erreur des moyens.
Ça, c'est la contrainte, hein. Ouais. C'est pas mal, quand même,
oui,
comme contrainte.
Mais il y a des logiques au participe passé tel qu'il est construit. C'est-à-dire, par exemple, on ne l'accorde pas quand c'est derrière parce qu'on ne sait pas sur quoi on va arriver. Donc,
une erreur qui date du Moyen-Âge, des moines copistes.
C'est ça, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et idem pour les moines copistes, le doublement des consonnes. Comme ils étaient payés à la lettre, parfois il y a des consonnes qui ont été dédoublées pour gagner plus d'argent. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont complètement illogiques dans l'orthographe, mais qui sont transmises de génération en génération. Bon, on pourrait très bien écrire philosophie avec des F.
Mmh. Ou pan, le pan. On garde le O parce qu'il fait la roue d'après les tenants de l'ancienne orthographe. C'est joli, on va dire. Clara,
est-ce que vous pensez pas que l'orthographe, il y a un regain d'intérêt justement parce qu'elle disparaît? Parce qu'à force des textos, je pensais à ça tout à l'heure, les textos, le langage numérique, etc. On est moins porté sur l'orthographe.
Oui, peut-être. En même temps, les ordinateurs, les téléphones corrigent.
Oui, mais c'est pas nous qui le faisons.
Non, c'est pas nous qui le faisons. Et donc, par exemple, sans repère, comment est-ce qu'on écrit sans repère? Est-ce que c'est repère AI ou AI accent grave? L'ordinateur le sait pas. Donc, c'est pas lui qui va nous corriger ça. Il y a toute une série de choses pour lesquelles, oui, il y a peut-être une perte. En même temps, on utilise plus l'écrit avec les textos. Donc,
oui,
simultanément, il y a un retour de l'écrit. Il y a peut-être une disparition de l'orthographe, mais il y a un retour de l'écrit. Et si on voit cette disparition de l'orthographe, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup plus d'écrit qu'auparavant et qu'on est plus amené à faire des fautes qu'on ne l'était avant.
Et beaucoup d'emails aussi. Hervé Le Tellier, une petite dictée de par Jupy Proust, menée par Alex Vizorek.
Allez, question courte, réponse aussi, mais les réponses plus intelligentes que les questions. Sur l'échelle de 0 à 10 de l'écrivain de gauche, 10 étant Karl Marx, 0 étant Éric Zemmour, à combien vous situez-vous?
11.
11. C'est Karl Marx, ça va être surpris. Vous avez un DEA de mathématiques et vous êtes devenu romancier. Sur l'échelle de 0 à 10 de Parcoursup raté, vous êtes à combien?
3.
Si vous pouviez ajouter un membre au jury du prix Goncourt, ce serait Florent Pagny, Amel Bent ou Vianney?
J'en connais où? J'ai l'air idiot, je ne les connais pas bien.
Alors, j'ai la question suivante. Si vous pouviez ajouter un membre au jury de The Voice, ce serait Françoise Chandernagor, Pascal Bruckner ou Didier Decoin?
Je pense que Didier Decoin adorerait.
C'est fort probable. Quel ancien lauréat du prix Goncourt vous aimeriez visiter l'intérieur de sa tête?
Gary.
Alors, je vais passer
deux fois, on pourrait faire deux fois.
Oui, deux fois. La tête d'Ajar et la tête de Gary, ça ne va pas tout à fait être les mêmes.
De quel lauréat du prix Goncourt aimeriez-vous visiter l'intérieur? Non, c'est une question pour les grosses têtes, pardon. Justement, si, comme Romain Gary, vous souhaitiez regagner le prix Goncourt, quel pseudo choisiriez-vous?
Clara Dupont-Mono, dites.
Je vais pas le dire parce que en fait je travaille dessus.
Et c'est très bonne réponse. Si vous pouviez vivre une journée dans un personnage de Jean-Paul Belmondo, ce serait lequel?
Celui de Pierrot le Fou.
Ouais, c'est une mauvaise journée du coup.
Oui, c'est une mauvaise journée, ça s'amine mal par bleu, tout ça, avec une explosion.
Quelle est la chose que vous détestez par-dessus tout dans les prix littéraires? Vous pouvez répondre Clara Dupont-Mono.
Oh, c'est pas fini, oui. Oh.
Je pense que ce que je déteste le plus dans les prix littéraires, c'est l'attente, en fait. C'est ce que ça crée comme attente, à la fois dans le public et chez ceux qui sont les impétrants. C'est pas, tout ça n'est pas très sain.
Hervé Le Tellier, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et je rappelle à nos auditeurs la reparution de Je m'attache très facilement, paru au Mille et Une Nuits. Et on pourra vous écouter avec vos amis de l'Oulipo dans le rond-point dans le jardin. Ce sera samedi à Paris, 11 septembre, à 16h pour une carte blanche. Merci beaucoup,
merci.
Hervé Le Tellier. Nous, on va se retrouver à Nancy jeudi, les amis. Venez nombreux à l'Opéra pour une émission en direct du livre sur la place. En attendant, je vous dis à demain pour l'émission du mercredi pour un par Jupy Class.
Une journée de plus en moins. On va aller dormir, puis demain on recommence.